Intermède. Eshonaï, Im, Risne.
Intermède 1. Narak. Le rythme de résolution palpitait tout au bas au fond du cerveau d'Eshonaï lorsqu'elle atteignit le plateau situé au centre des plaines brisées. Le plateau central. Narak. Exil. Son foyer. Elle arracha le casque de sa cuirasse d'éclat et inspira profondément l'air froid. Bien qu'elle soit merveilleusement aérée, la cuirasse devenait étouffante après des efforts prolongés. D'autres soldats atterrirent derrière elle. Elle en avait emmené dans les 1500, sur cette course. Fort heureusement, ils étaient, cette fois-ci, arrivés bien avant les humains et avaient recueilli le cœur de Jem avec un minimum de combat. C'était Davy qui le portait. Il avait gagné ce privilège, car c'était lui qui avait repéré la chrysalide de loin. Elle regrettait presque que la course ait été si facile. Presque. « Où êtes-vous, épine noire ? » songea-t-elle en regardant vers l'ouest. « Pourquoi n'étiez-vous pas revenu m'affronter ?» Il lui semblait l'avoir aperçu lors d'une autre course, la semaine précédente, quand son fils les avait chassés de ce plateau. Eshonaï n'avait pas participé à ce combat. Sa jambe blessée la faisait souffrir, et le saut de plateau en plateau l'avait mise à rude épreuve malgré la cuirasse d'éclat. Peut-être valait-il mieux qu'elle se tienne à l'écart de ses courses. Elle avait insisté pour être présente au cas où sa force d'assaut se retrouverait cernée et aurait besoin d'un porte-éclat, même blessée, pour la libérer. Sa jambe lui faisait toujours mal, mais la cuirasse amortissait suffisamment les chocs. Bientôt, elle allait devoir rejoindre les combats. Si elle participait directement, peut-être l'épine noire réapparaîtrait-il. Il fallait qu'elle lui parle. Les vents eux-mêmes semblaient lui en souffler l'importance. Ses soldats levèrent la main en signe d'adieu, tout en empruntant des chemins distincts. Beaucoup chantaient tout bas ou fredonnaient une chanson sur le rythme de deuil. Ces jours-ci, peu chantaient sur exaltation, ou même résolution. Pas à pas, tempête après tempête, la dépression s'emparait de son peuple, ceux qui écoutent, comme ils s'appelaient eux-mêmes. Parchendi était un terme humain. D'un pas décidé, Eshonaï se dirigea vers les ruines qui dominaient Narak. Il n'en restait pas grand-chose après toutes ces années. Des ruines de ruines, pourrait-on dire. Les œuvres des hommes, comme celles de ceux qui écoutent, ne duraient guère face à la puissance des tempêtes majeures. Cette aiguille de pierre, un peu plus loin, avait dû être une tour autrefois. Au fil des siècles, de violentes tempêtes y avaient déposé une épaisse couche de crémons. Il s'était infiltré dans les fissures et avait rempli les fenêtres avant de durcir lentement. La tour évoquait à présent une immense stalagmite dont la pointe arrondie se tendait vers le ciel et dont le flanc couvert de protubérances rocheuses donnait l'impression d'avoir fondu. L'aiguille devait posséder un cœur robuste pour avoir si longtemps survécu au vent. D'autres exemples d'ingénierie ancienne avait nettement moins bien tenu. Eshonaï longea motte et monticule, vestiges de bâtiments effondrés qui avaient été lentement absorbés par les plaines brisées. Les tempêtes étaient imprévisibles. Parfois, d'énormes sections de roches se détachaient des formations, laissant des cavités et des arêtes irrégulières. D'autres fois, des cimes se dressaient pendant des siècles et poussaient au lieu de rétrécir, car les vents les usaient et les faisait grandir tout à la fois. Eshonaï avait découvert des ruines similaires au cours de ses explorations. Comme celle sur laquelle elle se trouvait quand son peuple avait pour la première fois rencontré les humains. Ça ne remontait qu'à 7 ans, mais ça semblait une éternité. Elle avait adoré ces jours-là, l'exploration d'un monde qui semblait infini. À présent, elle passait sa vie prisonnière de ce plateau. La nature l'appelait, lui chantait qu'elle devait rassembler tout ce qu'elle pouvait porter et se mettre en route. Malheureusement, ce n'était plus là son destin. Elle traversa l'ombre d'un imposant rocher dont elle avait toujours imaginé qu'il avait pu être la porte d'une ville. D'après le peu qu'ils avaient appris de leurs espions au fil des ans, elle savait que les Alétis ne comprenaient pas. Ils marchaient sur la surface irrégulière des plateaux et ne voyaient que de la pierre naturelle, ignorant qu'ils traversaient les ossements d'une cité morte depuis longtemps. Eshonaï frissonna et se cala sur le rythme des disparus. C'était une cadence douce et cependant violente, avec des notes distinctes et bien nettes. Elle ne s'y attarda pas longtemps. S'il était important de se rappeler les morts, il l'était encore davantage d'œuvrer à protéger les vivants. Elle se cala de nouveau sur résolution et entra dans Narak. Ici, ceux qui écoutent avaient bâti le meilleur foyer possible au cours des années de guerre. Les saillies rocheuses étaient devenues des baraquements. Des carapaces de magnécoq formaient les murs et les toits. Sur le côté, sous le vent de tumulus, qui avait été des bâtiments, poussaient désormais des boutons de roche destinés à la consommation. La majeure partie des plaines brisées avait naguère été peuplée. Mais la plus grande ville s'était trouvée ici, en leur centre. Les vestiges de son peuple habitaient les ruines d'une cité morte. Il l'avait nommée Narak, exil, car c'était là qu'ils étaient venus pour se tenir à l'écart de leur dieu. Ceux qui écoutent, aussi bien féminines que masquins, levaient les mains vers elle sur son passage. Ils étaient si peu nombreux désormais. La quête de vengeance des humains était sans pitié. Eshonaï le comprenait très bien. Elle se tourna vers la maison des arts qui se trouvait tout près. Elle ne s'y était pas présentée depuis des jours. À l'intérieur, des soldats exécutaient des peintures atroces. Eshonaï marcha parmi eux, toujours vêtu de sa cuirasse d'éclat, son casque sous le bras. Le bâtiment allongé ne possédait pas de toit, ce qui laissait entrer une grande quantité de lumière à laquelle peindre, et les murs étaient couverts d'une épaisse couche de crémant durci depuis longtemps. Munis de pinceaux à gros poils, les soldats s'efforçaient de représenter les fleurs de boutons de roche disposées sur une estrade centrale. Eshonaï fit le tour des artistes pour inspecter leur travail. Le papier étant précieux et la toile inexistante, ils peignaient sur des fragments de carapace. Leur peinture était épouvantable. Taches de couleur criardes, pétales approximatifs. Eshonaï s'arrêta près de Varanis, l'un de ses lieutenants. Il tenait le pinceau délicatement entre ses doigts cuirassés, formant une silhouette massive devant son chevalet. Des plaques d'armure de chitine poussaient sur ses bras, ses épaules, sa poitrine et même sa tête. Eshonaï en avait de semblables sous sa cuirasse. « Vous vous améliorez ?» lui dit-elle sur le rythme de louange. Il se tourna vers elle et bourdonna doucement sur scepticisme. Eshonaï gloussa de rire et lui posa la main sur l'épaule. « Ça ressemble vraiment à des fleurs, Varanis. Je suis sincère. On dirait de l'eau boueuse sur un plateau brun, » répondit-il. « Avec peut-être quelques feuilles brunes qui flottent à la surface. Pourquoi les couleurs deviennent-elles marrons quand on les mélange ?» Trois couleurs si belles qui deviennent la plus laide des couleurs une fois réunies, c'est absurde, mon général. Général. Parfois, elle se sentait aussi mal à l'aise à ce poste que ses hommes lorsqu'ils tentaient de dessiner. Elle portait sa forme de guerre, car elle avait besoin de l'armure pour se battre, mais elle lui préférait la forme de travail, plus souple, plus solide. Ce n'était pas qu'il lui déplaise de diriger ses hommes, mais répéter chaque jour les mêmes choses. Les exercices, les attaques de plateau, lui engourdissaient l'esprit. Elle voulait de la nouveauté, découvrir de nouveaux endroits. Au lieu de quoi, elle rejoignait son peuple dans une longue veillée mortuaire tandis qu'il mourait un par un. Non, nous allons trouver une solution. L'art y contribuerait, espérait-elle. Sur ses ordres, tous les hommes et les femmes se relayaient à la maison des arts à l'heure qu'on leur attribuait. Et il faisait des efforts, de gros efforts, avec autant de succès, jusqu'à présent, que lorsqu'on cherche à sauter par-dessus un gouffre sans voir l'autre côté. « Pas de spren ?» demanda-t-elle. « Pas un seul. » Il avait répondu sur le rythme de deuil. Elle l'entendait bien trop souvent ces jours-ci. « Continuez à essayer, » lui dit-elle. « Nous n'allons pas perdre cette bataille faute d'efforts. »
Mais mon général, répliqua Varanis, à quoi bon? Avoir des artistes ne nous sauvera pas des épées des humains.
Près d'eux, d'autres soldats se tournèrent pour entendre la réponse. Les artistes ne nous y aideront pas, répondit-elle sur le rythme de paix. Mais ma sœur est persuadée d'être tout près de découvrir de nouvelles formes. Si nous découvrons comment créer des artistes, ça lui en apprendra peut-être davantage sur le processus de transformation. Et ça l'aidera peut-être dans ses recherches. Ça pourrait même lui permettre de découvrir des formes plus puissantes que la forme de guerre. Les artistes ne nous sortiront pas de là, mais une autre forme le fera peut-être. Varanis hocha la tête. C'était un bon soldat. Tous ne l'étaient pas. La forme de guerre ne rendait pas quelqu'un intrinsèquement plus discipliné. Malheureusement, elle bridait les talents artistiques. Et Shonai avait essayé de peindre. Elle ne parvenait pas à réfléchir de la manière adéquate, à saisir l'abstraction nécessaire pour créer de l'art. La forme de guerre était une excellente forme, très polyvalente. Elle n'entravait pas la pensée, comme le faisait la forme d'accouplement. À l'instar de la forme de travail, on restait soi-même quand on adoptait la forme de guerre. Toutefois, chacune possédait ses bizarreries. Un travailleur avait du mal à commettre des actes de violence. Il y avait comme un blocage mental à l'œuvre. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle appréciait cette forme. Elle l'obligeait à réfléchir différemment pour contourner les problèmes. Aucune de ces formes ne permettait de créer de l'art. Enfin, de bien le faire. La forme d'accouplement était préférable, mais associée à une foule d'autres problèmes. Il était presque impossible de garder les accouplants concentrés sur quoi que ce soit de productif. Il existait deux autres formes, quoique la première, la forme morne, soit rarement utilisée. C'était une relique du passé, avant qu'il n'ait redécouvert quelque chose de meilleur. Ce qui ne laissait que la forme d'agilité, une forme polyvalente qui était souple et prudente. Il s'en servait pour éduquer les petits et effectuer le genre de travail qui nécessitait davantage de dextérité que de muscles. On ne pouvait y consacrer que peu d'individus, bien qu'elle soit plus adaptée pour l'art. Les vieilles chansons parlaient de centaines de formes. Il n'en existait plus que 5 désormais. Enfin, 6 en comptant la forme d'esclave, dépourvue de sprennes, d'âme et de chant. Celle à laquelle les humains étaient habitués et à laquelle ils donnaient le nom de parche. Ce n'était cependant pas une forme véritable, mais une absence de toute forme. Et Shonai quitta la maison des arts, casque sous le bras, la jambe endolorie. Elle traversa la place des eaux où des agiles avaient façonné un large bassin à partir de crémons sculptés. Ils recueillaient la pluie riche de nutriments lors des accalmies qui succédaient aux tempêtes. Ici, les travailleurs portaient des seaux pour aller chercher de l'eau. Leur forme était puissante, presque autant que la forme de guerre, mais dotée de doigts plus fins et dépourvue d'armure. Beaucoup la saluèrent d'un signe de tête, bien qu'elle ne possède, en tant que générale, aucune autorité sur eux. Elle était leur dernier porte-éclat. Un groupe de 3 accouplants, 2 fémines, 1 masquin, jouaient dans l'eau en s'éclaboussant mutuellement. À peine vêtus, ils s'aspergeaient d'une eau que les autres allaient boire. « Vous trois !» leur lança sèchement Echonai. « Vous n'avez rien d'autre à faire ?» Ils lui sourirent avec leur forme potelée et leur esprit émoussé. « Venez !» lui lança l'un d'entre eux. « C'est amusant !»« Dehors !» ordonna Echonai, le doigt tendu. Tous 3 marmonnèrent sur leur rythme d'irritation en sortant de l'eau. Sur leur passage, plusieurs travailleurs secouèrent la tête, dont l'un chantait sur louange en signe d'appréciation des Shonai. Les travailleurs n'aimaient pas la confrontation. C'était un prétexte, tout comme ceux qui adoptaient la forme d'accouplement utilisaient leur forme comme prétexte à leur activité inepte. Lorsqu'elle était travailleuse, Echonai s'était entraînée à se confronter aux autres en cas de nécessité. Elle avait même été accouplante à une occasion, et avait obtenu de première main la preuve que l'on pouvait effectivement se montrer productif en tant qu'accouplant, malgré les distractions. Bien entendu, son expérience d'accouplante avait été, sur tous les autres plans, une catastrophe absolue. Elle s'adressa aux accouplants sur réprimande, en termes si véhéments qu'elle attira des sprennes de colère. Elle les vit arriver de loin, appelée par son émotion, se déplaçant à une incroyable vitesse, comme des éclairs dansant vers elle en traversant la pierre lointaine. Les éclairs s'accumulèrent à ses pieds, teintant les pierres de rouge. Son discours imprima la peur des dieux chez les accouplants, qui s'éloignèrent en courant pour leur séance à la maison des arts. Avec un peu de chance, il ne s'arrêterait pas en chemin pour s'accoupler dans une alcôve. Cette pensée lui souleva l'estomac. Elle n'avait jamais réussi à comprendre les gens qui souhaitaient conserver la forme d'accouplement. La plupart des couples, afin de procréer, adoptaient cette forme et s'y enfermaient pendant un an, puis la quittaient le plus vite possible après la naissance de l'enfant. Après tout, qui voulait sortir ainsi en public? Les humains le faisaient. Ce point l'avait déconcerté les premiers jours, qu'elle avait consacré à apprendre leur langage, à commercer avec eux. Non seulement les humains ne changeaient pas de forme, mais ils étaient toujours prêts à s'accoupler, toujours distraits par des pulsions sexuelles. Que n'aurait-elle donné pour se fondre parmi eux à leur insu? Adopter leur peau monochrome pendant un an et arpenter leur route, voir leur cité majestueuse. Au lieu de quoi, elle avait, avec les autres, ordonné le meurtre du roi Aleti, dans une tentative désespérée visant à empêcher le retour des dieux de ceux qui écoutent. En tout cas, ça avait fonctionné. Le roi Aleti n'avait pas pu mettre son plan en œuvre. Mais son peuple, en conséquence, se faisait lentement détruire.